Délire, vierge folle. Écoutons la confession d'un compagnon d'enfer. Ô divin époux, mon Seigneur, ne refusez pas la confession de la plus triste de vos servantes. Je suis perdu, je suis saoul, je suis impur. Quelle vie! Pardon, divin Seigneur, pardon, ah, pardon, que de larmes et que de larmes encore plus tard, j'espère. Plus tard, je connaîtrai le divin époux. Je suis née soumise à lui. L'autre peut me battre maintenant. À présent, je suis au fond du monde. Ô mes amis, non, pas mes amis, jamais délire ni torture semblable, est-ce bête? Ah, je souffre, je crie, je souffre vraiment. Tout pourtant m'est permis, chargé du mépris des plus méprisables cœurs. Enfin, faisons cette confidence, quitte à la répéter 20 autres fois, aussi morne, aussi insignifiante. Je suis esclave de l'époux infernal, celui qui a perdu les vierges folles. C'est bien ce démon-là. Ce n'est pas un spectre, ce n'est pas un fantôme, mais moi qui ai perdu la sagesse, qui suis damnée et morte au monde, on ne me tuera pas. Comment vous le décrire? Je ne sais même plus parler, je suis en deuil, je pleure, j'ai peur. Un peu de fraîcheur, Seigneur, si vous voulez bien. Je suis veuve, j'étais veuve, mais oui, j'ai été bien sérieuse jadis. Et je ne suis pas né pour devenir squelette. Lui était presque un enfant. Ses délicatesses mystérieuses m'avaient séduite. J'ai oublié tout mon devoir humain pour le suivre. Quelle vie! La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde. Je vais où il va, il le faut. Et souvent il s'emporte contre moi, moi, la pauvre âme. Le démon, c'est un démon, vous savez. Ce n'est pas un homme. Il dit: je n'aime pas les femmes. L'amour est à réinventer, on le sait. Elles ne peuvent plus que vouloir une position assurée. La position gagnée, cœur et beauté sont mis de côté. Il ne reste que froid dédain, l'aliment du mariage, aujourd'hui. Ou bien je vois des femmes avec les signes du bonheur dont moi j'aurais pu faire de bonnes camarades, dévorées tout d'abord par des brutes sensibles comme des bûchers. Je l'écoute, faisant de l'infamie une gloire, de la cruauté un charme. Je suis de race lointaine, mes pères étaient des Scandinaves. Ils se perçaient les côtes, buvaient leur sang. Je me ferai des entailles par tout le corps. Je me tatouerai, je veux devenir hideux, comme un Mongol. Tu verras, je hurlerai dans les rues. Je veux devenir bien fou de rage. Ne me montre jamais de bijoux. Je ramperai et me tordrai sur le tapis, ma richesse. Je la voudrais tachée de sang partout. Jamais je ne travaillerai. Plusieurs nuits, son démon me saisissait. Nous nous roulions. Je luttais avec lui. Les nuits, souvent ivres, il se poste dans des rues ou dans des maisons pour m'épouvanter mortellement. On me coupera vraiment le cou. Ce sera dégoûtant. Au séjour où il veut marcher avec l'air du crime. Parfois, il parle en une façon de patois attendri, de la mort qui fait repentir, des malheureux qui existent certainement, des travaux pénibles, des départs qui déchirent les cœurs. Dans les bouges où nous nous enivrions, il pleurait en considérant ceux qui nous entouraient, bétail de la misère. Il relevait les ivrognes dans les rues noires. Il avait la pitié d'une mère méchante pour les petits-enfants. Il s'en allait avec des gentillesses de petite fille au catéchisme. Il feignait d'être éclairé sur tout, commerce, art, médecine. Je le suivais. Il le faut. Je voyais tout le décor dont, en esprit, il s'entourait. Vêtements, draps, meubles, je lui prêtais des armes, une autre figure. Je voyais tout ce qu'il touchait comme il aurait voulu le créer pour lui. Quand il me semblait avoir l'esprit inerte, je le suivais, moi, dans des actions étranges et compliquées, loin, bonnes ou mauvaises. J'étais sûr de ne jamais entrer dans son monde, à côté de son cher corps endormi. Que d'heures des nuits j'ai veillé, cherchant pourquoi il voulait tant s'évader de la réalité. Jamais homme n'eut pareil vœu. Je reconnaissais, sans craindre pour lui, qu'il pouvait être un sérieux danger dans la société. Il a peut-être des secrets pour changer la vie. Non, il ne fait qu'en chercher, me répliquai-je. Enfin, sa charité est ensorcelée, et j'en suis la prisonnière. Aucune autre âme n'aurait assez de force, force de désespoir, pour la supporter, pour être protégée et aimée par lui. D'ailleurs, je ne me la figurais pas avec une autre âme. On voit son ange, jamais l'ange d'un autre, je crois. J'étais dans son âme comme dans un palais qu'on a vidé pour ne pas voir une personne si peu noble que vous. Voilà tout. Hélas, je dépendais bien de lui, mais que voulait-il avec mon existence terne et lâche? Il ne me rendait pas meilleur s'il ne me faisait pas mourir. Tristement dépité, je lui dis quelquefois: je te comprends. Il haussait les épaules. Ainsi, mon chagrin se renouvelant sans cesse et me trouvant plus égaré à mes yeux, comme à tous les yeux qui auraient voulu me fixer, si je n'eusse été condamné pour jamais à l'oubli de tous, j'avais de plus en plus faim de sa bonté, avec ses baisers et ses étreintes amies. C'était bien un ciel, un sombre ciel, où j'entrais et où j'aurais voulu être laissé, pauvre, sourde, muette, aveugle. Déjà, j'en prenais l'habitude. Je nous voyais comme deux bons enfants libres de se promener dans le paradis de tristesse. Nous nous accordions, bien émus, nous travaillions ensemble. Mais après une pénétrante caresse, il disait: comme ça te paraîtra drôle, quand je n'y serai plus, ce par quoi tu as passé, quand tu n'auras plus mes bras sous ton cou, ni mon cœur pour t'y reposer, ni cette bouche sur tes yeux. Parce qu'il faudra que je m'en aille très loin un jour, puis il faut que j'en aide d'autres, c'est mon devoir. Quoique ce ne soit guère ragoûtant, chère âme. Tout de suite, je me pressentais, lui, parti, en proie au vertige, précipité dans l'ombre la plus affreuse, la mort. Je lui faisais promettre de ne me jamais laisser. Il l'a faite 20 fois, cette promesse d'amant. C'était aussi frivole que moi, lui disant: « Je te comprends. » Ah, je n'ai jamais été jalouse de lui. Il ne me quittera pas, je crois. Que devenir? Il n'a pas une connaissance. Il ne travaillera jamais. Il veut vivre somnambule, seul. Sa bonté et sa charité lui donnera-t-elle droit dans le monde réel? Par instant, j'oublie la pitié où je suis tombée. Lui me rendra forte. Nous voyagerons, nous chasserons dans les déserts, nous dormirons sur les pavés des villes inconnues, sans soins, sans peine, où je me réveillerai et les lois et les mœurs auront changé. Grâce à son pouvoir magique, le monde, en restant le même, me laissera à mes désirs, joie, nonchalance. Oh, la vie d'aventure qui existe dans les livres d'enfants pour me récompenser, j'ai tant souffert, me la donneras-tu? Il ne peut pas. J'ignore son idéal. Il m'a dit avoir des regrets, des espoirs. Cela ne doit pas me regarder. Parle-t-il à Dieu? Peut-être devrais-je m'adresser à Dieu. Je suis au plus profond de l'abîme et je ne sais plus prier. S'il m'expliquait ses tristesses, les comprendrais-je plus que ses railleries? Il m'attaque et le passe des heures à me faire honte de tout ce qui m'a pu toucher au monde et s'indigne si je pleure. Tu vois cet élégant jeune homme entrant dans la belle et calme maison? Il s'appelle Duval, Dufour, Armand, Maurice, que sais-je. Une femme s'est dévouée à aimer ce méchant idiot. Elle est morte. C'est certes une sainte au ciel à présent. Tu me feras mourir comme il a fait mourir cette femme. C'est notre sort à nous, cœur charitable. Hélas, il avait des jours où tous les hommes agissants lui paraissaient les jouets de délires grotesques. Il riait affreusement. Longtemps. Puis, il reprenait ses manières de jeune mère, de sœur aînée. S'il était moins sauvage, nous serions sauvés. Mais sa douceur aussi est mortelle. Je lui suis soumise. Ah, je suis folle. Un jour, peut-être, il disparaîtra merveilleusement. Mais il faut que je sache s'il doit remonter à un ciel, que je vois un peu l'assomption de mon petit ami. Drôle de ménage !